that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue à tous, bienvenue dans I Feel Good, 30 minutes pour profiter des ondes positives de mon invité, 30 minutes pour prendre le temps d'aller à la rencontre d'un homme, cette fois-ci acteur d'un peu de mieux vivre ensemble par son engagement perso, professionnel, il y a une rencontre des deux, on va le voir dans quelques instants. Par cet engagement, il apporte un peu de bien-être et de mieux vivre autour de nous. Cette semaine, chers amis, j'ai le plaisir d'accueillir, sur recommandation, Patrick Fioretta.
So good, so good, I got you.
Bonjour Patrick.
Bonjour Christophe.
Bienvenue à RCN, on va parler de sophrologie.
Oui.
Fortement recommandé par une animatrice de superbes émissions, puisqu'on est la première radio à proposer des émissions de sophro dans le cadre d'un partenariat, un échange avec le CHRU, la maternité. Et puis des rencontres qui m'ont dit « mais il faut que tu interviewes Patrick Fioretta ». Alors, pourquoi faut-il interviewer Patrick Fioretta? Pourquoi faut-il parler de la sophrologie aujourd'hui?
Alors... de moi, parce que je suis peut-être porteur de la sophrologie en Lorraine, en tout cas, puisque je dirige l'école Lorraine de sophrologie caïssédienne aujourd'hui. Mais surtout parce qu'on est dans une période un peu difficile, et je pense que avec des incertitudes, une lisibilité de l'avenir qui est plutôt chaotique. Et donc les personnes, enfin la population, je dirais, les personnes ont besoin de plus en plus de techniques pour pouvoir s'équilibrer et trouver du bien-être.
Alors, ça peut, pour des gens très pragmatiques, tout ça peut faire peur, ça peut se rapprocher de l'ésotérisme, ça peut être de la manipulation mentale. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie?
Alors la sophrologie, c'est une technique simple avec des exercices à base de respiration, de gestes simples, de mentalisation du positif pour être un petit peu acteur de son bien-être, c'est-à-dire mieux se connaître, savoir comment on fonctionne, pour pouvoir mobiliser ses ressources, le cas échéant, par rapport à des difficultés du quotidien.
Donc ça dépend de soi essentiellement, pas des autres.
Oui, enfin, c'est un entraînement personnel, on va dire, oui, tout à fait.
Donc vous êtes coach?
Ah, c'est pas exactement coach. Je pense que c'est une profession qui est bien définie, avec des règles qui lui sont propres. On va donner le cadre à la personne, avec des techniques dans lesquelles elle va pouvoir prendre conscience d'elle-même, et d'elle-même dans ce monde-là, donc pour pouvoir mieux s'adapter.
Concrètement, ça veut dire que ça se passe comment
Ça se passe soit en groupe, avec un thème bien défini, par exemple on peut travailler sur le sommeil, pour un groupe qui veut améliorer la qualité de son sommeil, mais ça peut être aussi en individuel, par rapport à des objectifs précis, passer un examen, préparer une intervention chirurgicale, toutes sortes de choses qui peuvent créer chez nous soit de l'émotion ou soit le sentiment de ne pas avoir les ressources pour faire face à cette situation, de se dire c'est trop difficile pour moi. À partir de ce moment-là, on va pouvoir répondre à ces besoins-là.
Ça vient d'où alors maintenant la sophrologie?
La sophrologie, ça vient d'un monsieur, moi je l'appelle toujours le saventurier, c'est le professeur Caicedo, qui m'a formé déjà, qui était neuropsychiatre donc en Espagne, et qui, quand il était interne, se posait la question de savoir, en psychiatrie, nous traitons les malades avec des électrochocs, avec des comas insuliniques, et pour tout ça, pour mobiliser la conscience, vouloir remettre les compteurs à zéro quelque part, mais il n'y a aucune matière en médecine qui étudie la conscience proprement dit. Donc il s'est dit, il faut que j'invente quelque chose qui étudie la conscience, d'où le nom de sophrologie, puisqu'en fait c'est l'étude de la conscience en harmonie.
Alors, deux mots un petit peu sur ce savant fou alors quand même
Pas fou, aventurier.
Alors, en quoi aventurier alors?
Aventurier parce que à l'époque il y avait très peu de personnes qui travaillaient sur la conscience, les niveaux de conscience. Il y avait surtout l'école de Charcot à Paris qui était sur l'hypnose, et puis à Nancy, l'école de Nancy, hein, Liébeau, Bernheim. Et donc il est même venu à Nancy en 1960 pour rencontrer le docteur, le docteur Cuvelier, qui avait écrit sa thèse sur l'école hypnologique de Nancy, parce que justement il cherchait qui s'est occupé de ça avant. Et puis après il s'en est éloigné parce que il y avait plusieurs thèses. Pour l'hypnose, il y avait Paris, il y avait Nancy, enfin il y avait des incertitudes si vous voulez dans la méthodologie. Donc il a dit moi il faut que je crée quelque chose de nouveau. Donc il a utilisé des formes en grec, sos, phren, logos, pour créer toute sa sémantique et toute sa technique. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que son professeur en médecine, le professeur Ibor lui a dit, mais écoute, je connais quelqu'un qui travaille aussi sur la conscience, qui a été le père de la data analyse, c'est Biswanger en Suisse, à Kreuzlingen. Et donc il s'est rendu là-bas, et puis il était assez âgé, le Biswanger. Et le Biswanger, c'est le père de la Dasein analyse, c'est-à-dire l'étude de l'être qui est là, hein, Dasein en allemand, c'est ça. Et Biswanger dit à Caicedo quand il arrive là-bas, vous savez, si vous voulez étudier la conscience, jeune homme, puisqu'il devait avoir 27, 28 ans.
Ah, il était très jeune.
Ouais, il était en thèse, quoi. Il voulait faire sa thèse. Et il lui a dit, mais écoutez, il y a un endroit dans le monde où c'est des grands spécialistes de la conscience, c'est l'Orient. Et donc, vous devriez aller en Inde. Donc, Caicedo est parti, il devait partir 6 mois avec sa petite caméra, son petit bloc-notes et puis sa femme. Ils sont partis en Inde, ils devaient partir 6 mois, puis ils sont restés 2 ans. Donc ils sont allés un peu partout. Il a produit un livre sur le yoga, l'Inde des yogis, qui est encore une référence aujourd'hui, parce qu'il a fait l'inventaire de tous les yogas qui existaient. Hein, Raja Yoga, Hatha Yoga, Nidra Yoga, etc. Et puis ça l'a influencé pour créer sa méthode. Ensuite, il a rencontré le Dalai Lama pour le bouddhisme tibétain, se renseigner sur comment fonctionnait, on va dire, l'esprit, puisque le Hatha Yoga c'était plutôt une technique corporelle, on le voit aujourd'hui, on s'en sert comme gymnastique douce, et puis en Europe en tout cas, et l'esprit il l'a abordé avec le bouddhisme tibétain, puis ensuite il est allé voir les maîtres zen pour justement percevoir cette rencontre corps-esprit. Vous savez, c'est juste la posture le zen, hein, on est juste assis comme ça, et de ça il en a retiré dans une approche méthodique des exercices spécifiques, mais à l'occidental. Voilà.
Du coup, des exercices que vous pratiquez, que vous faites pratiquer ?
Tout à fait. C'est, en tout cas, ils sont fortement inspirés. Il a jeté un pont entre l'Orient et l'Occident. Voilà ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que la sophrologie c'est orientale. C'est plutôt une technique occidentale qui s'inspire d'exercices orientaux.
Je reviens un tout petit peu, merci Patrick pour cette historique, et puis pour dégager aussi un peu les images parfois erronées autour de la sophrologie. Pourquoi aujourd'hui, de plus en plus, personnellement je suis surpris en tout cas, de voir de plus en plus de professionnels de santé avoir recours à la sophro?
Parce que c'est un bon complément, hein. C'est une compétence supplémentaire. C'est-à-dire qu'au même titre que les enseignants l'utilisent. Je connais notamment une professeure de musique à Épinal qui a été formée chez nous et qui l'utilise pour les élèves, pour qu'ils soient au mieux dans la mobilisation de leurs capacités quand ils ont un morceau à jouer. Ben, le professionnel de santé va pouvoir l'utiliser aussi pour accompagner.
Alors,
c'est avant tout de l'accompagnement.
On peut prendre l'exemple du prof de musique, comme ça on s'éloigne un peu de l'angoisse qu'on peut avoir par rapport au professionnel de santé.
Et oui.
En quoi la sophro peut aider un prof de musique ?
Eh ben, ça peut surtout aider l'élève. Parce que ça va pouvoir faciliter la mobilisation de tout ce qu'on a appris à un instant T. Parce que être bon 10 minutes avant, ou être capable de mobiliser ses capacités 10 minutes après, ça ne sert pas. C'est le jour de l'examen où il faut être présent à soi-même, présent à son corps, présent à ses gestes. Et, parce qu'il y a quand même une dextérité. Par exemple, en piano, je pense au piano, il y a une certaine dextérité, mais il faut tout donner à ce moment-là, quoi.
Mmh. Et autour de nous, pour ceux qui nous regardent sur les réseaux sociaux en images, des étudiants justement, pour des étudiants du Centre Européen Universitaire, petit coup de pub, excellent centre de l'Université de Lorraine, voilà, ça c'est fait. Pour des étudiants, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, au moment, le stress de l'examen, le stress des concours, le stress, ça c'est aussi une méthode, donc pour les enseignants c'est vachement bien.
Ah bah pour les enseignants, ça peut les aider, oui. Il y a aussi, on peut utiliser aussi le jeu, parce que le jeu, ce qu'on appelle la sophrologie ludique, alors il y a des spécialistes colombiens qui sont venus, qui travaillent en Suisse actuellement, qui ont travaillé avec les enfants de la rue en Colombie, justement, parce que Caicedo voulait qu'il y ait une application sociale. Et donc, les gamins de la rue, il y a rien de mieux, dans le sens où ils ne sont pas scolarisés, donc ils n'ont pas le référentiel que nous avons, nous. Et en travaillant sur le corps, sur la corporalité, on leur permet, eh ben, eux disaient de mieux voler sans se faire repérer. Parce que... C'est-à-dire que la sophrologie répondait pleinement à leurs besoins à ce moment-là.
On a beaucoup parlé de la sophro. Maintenant, parlons un peu de toi. Comment tu es tombé dedans? Et avant de tomber dedans, il faut passer par une première date importante dans la vie de Patrick Fioretta, qui aujourd'hui est directeur de l'école de sophro à Nancy.
Oui.
Et avant, t'étais un étudiant, un lycéen, un collégien, un élève.
J'étais plutôt en retard, oui, je devais l'avouer. J'étais en retard parce que je ne comprenais pas trop ce qui se passait. À l'adolescence, voilà, le corps se transforme, on a des bouffées d'émotions quand on rencontre les filles. Enfin, il y a plein de choses qui se passent à l'adolescence et je ne pensais pas à travailler. J'étais plutôt rêveur, plutôt au fond de la classe. Et puis j'ai rencontré, je pense que... Les rencontres font toujours du bien, en tout cas quand elles sont authentiques. On a une directrice d'école qui s'appelait Mademoiselle Petiteville et qui, au lieu de nous faire des cours d'instruction civique, pensait que c'était mieux d'aborder la philosophie en première. Et donc elle nous a fait étudier un livre qui s'appelait...
Non, je ne sais pas si j'ai pas un j'ai un acquiescement de certains, mais pas collectif sur la philosophie.
Alors, bah, allons-y, ouais. En tout cas, ouais. Ça m'a un peu transformé. Enfin, ça a été un peu un choc comme ça.
C'est. Mais c'était vraiment de la philo-philo comme.
Oui, juste un petit bouquin, un tout petit livre qui s'appelle L'existentialisme est-il un humanisme de Sartre. Et c'était. Le titre paraissait barbare, inaccessible.
Un peu techno.
Un peu techno, voilà. Et pourtant, on a passé l'année dessus. C'est-à-dire que c'était un tout petit livre, mais c'était dans l'échange. Dans l'approfondissement des choses. Et dans ce petit livre, il est dit tout simplement une chose, c'est que pour exister, ben, faut faire des choix et choisir. Et Sartre donnait toujours l'exemple de ben, « je choisis pendant, d'être résistant ou alors d'être collabo pendant la guerre de 40 », parce que son référentiel, c'était quand même un texte qui avait été écrit en 46. Et la liberté, elle est là, avec les responsabilités qui vont avec. Et là, je me suis dit, bah oui, je peux peut-être arrêter de subir, peut-être que ce que je vis, bah, je suis pas bien, je suis pas à l'aise là-dedans, peut-être je peux faire quelque chose. Et puis ça m'a donné l'envie de travailler, voilà, de commencer à...
T'avais quel âge ?
Oh, j'étais déjà un peu âgé.
Ah, c'est ça, parce 17, que c'était pas tout à fait un gamin quand
17,
même.
17, ouais, 18
ouais.
ans, ouais.
Ouais, 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 ouais. Donc, en échec scolaire, on peut dire ?
Oui, je pense.
Un échec scolaire.
Déjà redoublé 3 classes, oui.
Ouais. Voilà. Donc on poussait pour que tu poursuives un peu des études.
Oui, mes parents avaient une volonté que je réussisse quelque chose à l'école, hein, parce que le bac était important pour eux. Et puis ils ont bien fait, parce que finalement ça a fini par payer. Voilà.
Aujourd'hui, 3e date importante, on passe de la première à la troisième. Mais on va s'agir de la 3e date, c'est quand tu deviens directeur de l'école. Doucement, restons sur cette première date, même si le temps passe vite, c'était le cours de Valais à Nancy, oui. pour les plus anciens,
rue de Lorraine,
c'était pour ceux dont les parents voulaient vraiment que les enfants poursuivent, mais que l'éducation c'était pas fait pour eux, quoi. Enfin, voilà, mais...
C'était le lycée de la dernière chance.
On
l'appelait comme ça, oui. Voilà, bah, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? C'était la dernière chance et je l'ai saisie, donc et puis grâce à cette rencontre.
Mais alors, tu l'as saisie par cette rencontre-là ou parce que toi tu t'es dit là on est au bout du système, ou c'est parce que il y a eu cette rencontre qui t'a éclairé?
Ça m'a éclairé, sincèrement, oui. Mm. Bah, je dis ça a posteriori, quand j'étais dedans.
Comment tu l'as vécu, oui, alors justement?
Bah, c'était une pierre qui s'est rajoutée et puis ça m'a donné. je sais pas, comme de la... ça peut être autrement. Ça me donnait un signe comme quoi ça pourrait être autrement que ce que je vivais et que je pouvais aussi changer les choses, moi.
Donc c'est... On va creuser un petit peu l'enseignement de philo, là. L'enseignement de philo, c'est entre la pédagogie du choix et le goût de la liberté. On se situe où, là, dans tout ça?
On se situe... le goût de la liberté. Oui, le goût de la liberté. Ça, c'était nous dire que même dans ce cadre-là, on pouvait être libre, voilà, à prendre des décisions.
Alors que c'était quand même vachement contre.
Oui, tout à fait.
Hein, il y avait quand même un cadre... scolaire.
Oui, très scolaire, oui.
Et alors, ta liberté, tu l'as choisie en faisant quoi?
Eh bien, déjà, j'ai commencé à faire des colonies de vacances, à passer d'autres étés que ceux qui étaient prévus d'habitude, à m'ouvrir au monde, à aller à la rencontre du monde, je pense.
Donc, des colos?
Des colos, après...
T'as commencé à avoir un choix d'orientation professionnelle?
Oui, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la biologie, à aller beaucoup plus loin là-dedans, à passer le concours de kiné, à l'avoir, voilà. À l'époque, ça se passait en terminale, et puis... Tout s'est un peu aligné en terminale pour le bac, voilà.
Donc, il a fallu du temps, mais la fusée a décollé.
Voilà, c'est ça.
La fusée a décollé vers la kiné.
Oui.
Une autre rencontre ensuite avec un autre homme qui m'a parlé de toi et qui m'a dit « faut le rencontrer, faut l'interviewer », c'est Marc Bremer.
Marc Bremer, oui.
Pardon, Marc Bremer. Quel est l'objet de cette rencontre?
La rencontre avec Marc Bremer, c'est-à-dire que je remplaçais dans le cabinet où il était, et puis son ancien associé partait, donc j'ai repris le cabinet, enfin la place de son ancien associé, et il m'a dit, écoute, pour l'esprit du cabinet global, moi je me mets dans la sophrologie, là, je commence, ça fait déjà 3-4 ans que je pratique, ça serait bien que toi tu te formes aussi à la sophrologie, et puis comme ça on pourrait avoir une identité plus forte dans ce domaine-là. Et puis, je l'ai un peu regardé bizarrement.
Donc ça, c'était quand?
C'était en 91.
D'accord. Voilà. Début des années 90.
Ouais, voilà. Et puis, puis en 92, je voulais aller vérifier par moi-même parce qu'il me parlait justement de la sophrologie sociale qui était appliquée en Colombie avec les enfants de la rue. Et comme ma femme est hispanophone, nous sommes partis à Bogota, voilà, pour vérifier si... parce que j'étais un peu sceptique quand même, si c'était une vraie démarche, si c'était pas juste du discours... Et quand nous sommes arrivés à Santa Fe de Bogota, nous sommes allés à la clinique Caicedo. Et à la clinique Caicedo, il y avait le fils, Javier.
Donc l'Espagnol était parti en Colombie alors?
C'est-à-dire que le Colombien était parti en Espagne faire ses études.
D'accord.
Et après, il était revenu en Colombie ouvrir sa clinique.
D'accord, ok. Donc il ouvre sa clinique après avoir fait un peu cette tournée européenne aussi et orientale.
Tout à fait, oui. Voilà.
Il revient en Colombie.
Il ouvre une clinique. Et qui était tenue à l'époque par son fils, là, en 91, puisque lui était reparti. Et il avait mené des expériences avec les enfants de la rue, des expériences pluridisciplinaires, sociales, pour l'amélioration de leur qualité de vie. Il n'y avait pas que la sophrologie. Hein. Et ils intervenaient la nuit, parce que le problème des enfants de la rue, là-bas, on les appelle un petit peu les enfants loups, dans le sens où ils vivent en groupe. Ils font un feu le soir, et surtout ils sont très animés la nuit, parce qu'il fait très froid à Bogota la nuit. Hein, c'est à 2600 mètres d'altitude. Ouais. Et donc la journée, ils dorment un peu au soleil, et puis la nuit, ils sont actifs, donc ils intervenaient la nuit. Voilà.
On se raconte un peu tout ça, c'est ce passage en Colombie, ce retour, et puis cette progression en scène dans quelques instants.
Après.
Sans bousculade, je dis aime et je le...
Good sur RCN, Christophe Chevardet.
Oui, on est là, on est là. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pardon. I feel good avec Patrick Fioretta. On accueille des étudiants du Centre européen universitaire qui sont dans le public également. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de déconcentration, mais ça va revenir, ça revient, ça revient, ça revient. On y arrive. Patrick, on était la révélation de ton existence par la liberté, par la possibilité de faire tes choix, hein, voilà. Mmh. Première date importante, le cours de Valais. Deuxième date importante, on y était là, c'était un aller en Colombie avec un certain nombre de questions autour de la sophrologie, autour de Caicedo, des questions, des doutes, des choses à vérifier. Tu es en Colombie, tu y passes 5 semaines, me dis-tu ?
Oui, oui, ben on a profité pour visiter la Colombie. En plus, j'avais le livre de Garcia Marquez, 100 ans de solitude, et je suis allé sur tous les endroits qui étaient dans le livre. Alors c'était assez passionnant, notamment le Cap de la Voile qui était au bout du désert. Enfin, voilà, en même temps, c'était assez culturel. Et puis, ce qui est assez étonnant en Colombie, c'est qu'il y a le réalisme magique. D'ailleurs, dans le discours, il est réputé pour ça, Garcia Marquez. Il y a toujours quelque chose d'un peu magique qui se passe, à tel point que dans la clinique d'Alfonso Caicedo, les cours qui étaient donnés pour les enfants, c'était pour avoir 10 sur 10 en mathématiques. Alors que nous, en sophrologie, enfin, alors qu'en Europe, on veut utiliser la sophrologie pour avoir plus de rêves, pour plus d'émancipation de l'esprit, alors que eux, c'était totalement l'inverse. C'était pour être plus carré, plus logique.
On a l'impression que c'est deux mondes différents.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais une seule méthode, et qui peut servir donc pour ces deux mondes-là.
Et aujourd'hui, le professionnel que tu es, dit les deux méthodes, enfin la même méthode répond à ces objectifs-là.
Tout à fait, elle répond aux besoins.
On y revient dans quelques instants, dans ta troisième date importante, celle de directeur de cette école. Restons en Colombie, tu y vas avec la question des doutes, un besoin de vérifier, de constater.
Oui.
Tu reviens comment, le trajet retour, tu
te dis quoi ? Je reviens enthousiasmé, et je me dis, je veux faire ça, voilà. Donc j'ai été me former auprès de Caicedo de 83. Enfin non, c'est Marc Bemmer qui m'a formé puisque j'ai fait partie de la première promotion à Nancy de l'école Lorraine de sophrologie caicédienne, donc de 93 à 95. Et puis ensuite, je suis formé pour les cycles supérieurs avec le professeur Caicedo lui-même.
Donc Marc est celui qui est un peu implanté à Nancy, alors c'est ça l'école ?
Oui, tout à fait. Avec d'autres, mais avec Odile Lemes, avec Mireille Comtesse, voilà.
Et à Nancy, on devient un peu une plateforme connue en sophro dans le secteur ?
Ah, je pense qu'on a une certaine réputation, puisque en 2013, 2014, j'ai eu le prix Alfonso Caicedo pour le meilleur travail de recherche. Donc même vis-à-vis des autres écoles caicédiennes qui existent en France et en Europe, voilà, on a une petite valeur ajoutée, c'est qu'on a fait de la recherche.
Alors c'est quoi la recherche ?
Bah, la recherche, c'est une recherche quantitative et qualitative. C'est-à-dire que, pour celle-là, j'ai été directeur du mémoire d'un étudiant de kinésithérapie qui a eu son diplôme d'État avec ces travaux-là. On a pris 2 fois 30 élèves, un groupe de 30 qui a pratiqué la sophrologie pendant 5 semaines, un groupe qui n'a rien fait, et puis en fait, il y a une amélioration. Alors, parce que tout le monde avait le même examen à la même date. Donc, on avait la même situation, à peu près les mêmes tranches d'âge. Donc, ça a montré que ça fonctionnait, quoi.
C'est-à-dire qu'à la fin, à l'examen, les notes étaient meilleures
Non, c'est-à-dire que les questionnaires sur les vocations du stress, c'est-à-dire les douleurs articulaires, la prise de médicaments, les troubles du sommeil, tout ça, étaient largement améliorés.
Mais alors, est-ce que la note a été changée à la fin ?
Alors la sophrologie catalyse vos capacités, mais s'il n'y a rien à catalyser... s'il n'y a pas de travail, ça ne...
D'accord.
S'il n'y a pas de travail, il ne se passera rien.
Elle ne va pas se substituer, elle va mobiliser des moyens.
Voilà, on mobilise les moyens, les capacités pour la réussite, mais si on n'a rien appris...
Alors justement, on apprend dans une école, tu es directeur d'une école, on y arrive enfin, directeur d'une école de sophrologie.
Oui, bah c'est de la formation pour adultes, tout simplement.
Qui s'adresse à qui ?
Qui s'adresse à toutes les personnes qui ont des besoins dans le cadre de la relation d'aide en fait. C'est-à-dire que ce soit des enseignants, des éducateurs, des médecins, du paramédical aussi, mais ça peut aussi tout simplement aider à s'adapter à tout changement ou transformation dans une entreprise, c'est-à-dire s'adapter au changement, je crois que c'est ça aussi. Les deux pôles, c'est ça, la relation d'aide et l'adaptation au changement.
Aujourd'hui, vous faites des formations où, qui s'adressent à qui, avec un objectif de diplôme ?
Voilà, ici à Nancy, donc, on fait une formation en 15 modules de 2 jours sur 15 mois. Et puis les personnes passent un mémoire, enfin une synthèse, apprennent à diriger des séances, apprennent. Leur premier élève, c'est eux-mêmes. Ça, il faut le savoir aussi, c'est que on s'entraîne soi-même d'abord, avant de pouvoir entraîner les autres. Hein, parce que si on ne connaît pas bien la méthode, ça va être difficile. Et puis, en dehors de ça, de cette formation, il y a aussi des petits ateliers qu'on utilise, mieux-être et sophrologie, qui sont sur 8 semaines, là c'est pour le grand public. Ou alors du mieux dormir sur 5 séances aussi. Et aussi des formations, comment je pourrais dire, des ateliers plus spécifiques que nous avons développé en parallèle de l'école avec un centre d'application. Alors ces ateliers sont adressés aux seniors, notamment pour les aidants. Donc nous avons des ateliers aidants-aidés, nous travaillons avec l'OHS hein, aussi, qui détermine qui est aidant, et puis on essaye de rassembler ces personnes-là ensemble pour pratiquer et avoir plus de vie sociale aussi. Hein, ça permet aussi d'avoir des échanges, que les personnes échangent aussi. Le groupe est intéressant pour ça, en fait. C'est-à-dire qu'on peut échanger et se rendre compte qu'on a les mêmes problèmes que son voisin et qu'on peut utiliser les mêmes outils pour pouvoir aller mieux.
Et on a le temps de partager la pratique d'outils sur ces formations-là ?
Oui, tout à fait.
Des animateurs de centres de loisirs, par exemple, on pourrait faire 2 jours de formation pour eux ?
Tout à fait. Tout à fait. Ah oui, leur donner. Oui, tout à fait.
C'est la 3e date importante hein, pour toi, cette école. C'est la reprise de la direction parce qu'elle existait déjà, c'est ça ?
Elle existait déjà, oui. Voilà. Puisque Marc Bemer partait en retraite et puis dans cette éventualité-là, il voulait que le projet continue.
Ouais.
Et donc on a mis des bouchées doubles pour préparer des cours. Enfin, c'était beaucoup de travail, mais voilà.
Pour toi, ça a changé quoi ?
Ben, ça a changé parce que...
Pour toi, là,
à titre individuel, c'est-à-dire que c'était un petit peu une revanche par rapport aux échecs de départ, les échecs scolaires, et puis la compréhension aussi de certaines choses sur mon mode de fonctionnement pour l'apprentissage. Je suis assez corporel, si je bouge, je retiens bien, si je reste assis comme ça, je ne retiens pas bien. Enfin voilà, j'ai appris comment je fonctionnais. Et puis j'ai pu me dire... enseigner dans une méthode un peu inversée, c'est-à-dire que la sophrologie, c'est avant tout une pratique. Et on fait la pratique et en découle la théorie. C'était la grande force de Caicedo, c'est qu'il a approché ça par l'expérience du vécu. Et donc, quand je fais ça et ça et ça, en majorité, on obtient ceci. Et donc après, on en tire une règle et puis on améliore la méthode.
Par la pratique de la liberté, un homme heureux. Merci Patrick de t'être arrêté à RCN. Belle continuation à toi et à tous ceux qui profitent de la sophrologie.